Nous savons que la chair est non seulement privée de l'esprit, mais elle est aussi opposée à l'esprit. La Bible affirme que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, dans Galates chapitre 5 et verset 17. Mais nous devons remarquer que l'opposition manifestée par la chair contre l'esprit et contre le Saint-Esprit est de deux sortes. Le premier niveau, c'est en commettant le péché, ça nous sommes d'accord, en se rebellant contre Dieu, en transgressant sa loi. Mais il y a une deuxième sorte, c'est en faisant ce qui est bien, en obéissant à Dieu, en faisant sa volonté. Alors, cette deuxième possibilité peut vous paraître une contradiction, en quelque sorte, dans les termes. Mais suivez-moi et vous allez bientôt comprendre ce que je veux dire. L'élément de la chair, constitué par le corps, plein de péchés, de convoitises, ne peut pas éviter de s'exprimer naturellement par de nombreux péchés, et ce qui ne manque pas d'ailleurs d'attrister le Saint-Esprit. Mais il y a une partie de notre chair qui est constituée par l'âme, qui n'est pas aussi, je vais dire, corrompue que le corps. L'âme, n'oubliez pas, c'est chez l'homme le principe de la vie, c'est son moi propre, qui comprend, vous vous souvenez, trois grandes facultés, il y en a d'autres, mais disons les trois grandes facultés, c'est la volonté, c'est l'intelligence ou l'intellect ou l'entendement, et puis le sentiment, ce qui correspond à toutes les émotions. Trois grands points, donc la volonté, l'intelligence, l'émotion, les émotions. Et du point de vue de l'homme, pas de Dieu. Les œuvres de l'âme peuvent ne pas être souillées toutes, elles sont simplement centrées sur nous-mêmes ou bien sur nos pensées, nos sentiments, nos préférences, nos antipathies. Bien qu'elles soient toutes concentrées sur nous-mêmes, en fait, les œuvres de l'âme ne sont pas nécessairement des péchés qui souillent. Vous êtes d'accord avec moi ? La caractéristique fondamentale des œuvres de l'âme, c'est simplement l'indépendance de Dieu ou la dépendance de la vie propre. C'est ça la caractéristique de l'âme. Elle est capable d'agir par elle-même. Elle est capable d'agir complètement en indépendance de la volonté de Dieu. Elle est capable, bien sûr, d'agir en rébellion, ça nous en sommes d'accord. Donc bien que ce qui concerne l'âme ne soit pas aussi souillé que ce qui concerne le corps, nous sommes obligés de reconnaître que de toute façon, il n'en est pas moins hostile au Saint-Esprit. Parce que la chair fait à ce moment-là du moi, donc de l'âme, le centre, et élève donc la volonté propre au-dessus de la volonté de Dieu. C'est là où est le péché. On ne peut plus prier, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, puisqu'on met notre volonté au-dessus de celle de Dieu. Alors l'âme est capable, peut servir Dieu, mais toujours selon sa propre idée et non selon celle de Dieu. Souvenez-vous de l'offrande de Caïn, c'est selon sa propre idée. Il est venu adorer Dieu selon sa propre idée, oubliant que les fruits de la terre ne pouvaient être que maudits puisque la terre avait été maudite. Donc l'âme va faire ce qui est bien à ses propres yeux. Et mon moi, est le principe qui est derrière tous les actes initiés par mon âme. Alors mon âme ne va pas commettre ce que l'homme considère comme un péché. Elle va peut-être même essayer de mettre toutes ses forces, toutes ses ressources en ligne pour tâcher d'accomplir le commandement de Dieu, par exemple. Mais le moi ne manquera jamais de se trouver au cœur de toutes ces activités. La volonté de l'âme n'est pas la volonté de Dieu. Oui, qui peut sonder la vitalité de ce moi et le pouvoir qu'il a de s'illusionner? La Bible dit que notre cœur est trompeur. Qui le connaît? Nous n'avons pas conscience de ce cœur trompeur. Et pourtant, c'est ce que Dieu dit à notre sujet. Ou bien se souvenir de ceci: ce n'est pas seulement quand mon âme pêche contre Dieu que ma chair est opposée à l'esprit. Elle l'est maintenant même quand il s'agit de le servir et de lui être agréable. Vous comprenez? Il y a une nuance. Mon âme ne va pas volontairement décider de faire les choses qui sont mauvaises et qui sont péchés, parce que je sais que c'est péché, je connais un peu la loi de Dieu, donc je sais que ça va contre sa loi, donc je ne vais pas le faire. Mais au contraire, je vais servir Dieu, je vais faire tous mes efforts pour le servir. Et en faisant tous mes efforts pour le servir et lui être agréable, je m'oppose au Saint-Esprit, et donc je l'attriste, je l'éteins, parce que je m'appuie sur ma propre force, sans avoir recours uniquement à cette grâce de Dieu qui m'est donnée pour que je puisse marcher la marche chrétienne. Et je ne me laisse pas conduire par le Saint-Esprit, mais je me laisse conduire par les sentiments de mon âme ou par mon intelligence, les pensées de ma rationalité, de ma raison. Et donc, c'est mon âme, c'est-à-dire moi, qui vais encore conduire les choses voulant être agréable à Dieu. Et je ne le peux pas. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui induit mes actes, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui induit mon adoration, si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu que je marche, eh bien, je marche forcément par la force de mon âme, par la force de mon intellect, si je suis quelqu'un d'intellectuel, par la force de mes émotions, si je suis quelqu'un de très sensible, ou par la décision de ma volonté, si je suis quelqu'un qui, un leader qui a des capacités de diriger. Vous comprenez? Alors, c'est vrai que nous trouvons autour de nous beaucoup de nombreux croyants qui sont naturellement, entre guillemets, bons, patients, aimables. Et ces croyants ont en horreur le péché, ça, ils ne veulent pas. Et ce croyant, en fait, va par exemple admirer une qualité de Dieu qui est la justice. Alors il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour agir droitement, car il soupire. Le croyant soupire après les fruits de Galates, les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit de Galates 5, versets 22-23. Donc il va faire tous ses efforts pour produire ce fruit, ne comprenant pas que tous les efforts pour produire un fruit n'amènera à rien. Regardez, prenons une image. Un arbre fait-il des efforts pour produire un fruit? Un poirier fait-il un effort pour produire des fruits? Non. Il ne fait rien, sauf de laisser la sève couler en lui. La sève qu'il tire de la terre, qu'il tire du tronc, les branches tirent la sève du tronc, et lorsque la sève coule en abondance, bien, lorsque c'est le temps, les fleurs vont fleurir, puis après les fruits vont se former, puis encore les fruits vont mûrir sous l'influence extérieure du soleil. L'arbre ne fait aucun effort pour produire son fruit. Eh bien non, si nous sommes véritablement un bon arbre, comme dit le Seigneur. Un bon arbre va produire de bons fruits. Un bon arbre va rester attaché au cep. Relisez Jean 15. Nous sommes les sarments. Lui, il est le cep. Et le sarment va être cet organe qui va porter des fleurs et des fruits, qui va porter des grappes. Mais tout ce qui sera en trop, Dieu va l'émonder, Dieu va le couper. Le vigneron, il coupe la vigne. Il la taille. Pour lui faire mal? Non, pour qu'elle porte beaucoup de fruits. Et par le beaucoup de fruits, le Père sera glorifié. Donc il y a un danger terrible pour un croyant quand il n'est pas encore arriver à haïr la totalité de sa chair, tant qu'il n'a pas compris qu'en lui, il n'y a rien de bon et qu'il ne peut rien produire. Jésus l'a dit, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si nous ne sommes pas attachés foncièrement au cep, nous ne pouvons pas porter de fruits. Qu'est-ce que ça veut dire être attaché au cep? C'est-à-dire n'avoir plus cette capacité naturelle de prendre notre vie en contrôle et en main et de la lâcher entre les mains du Seigneur, de se laisser conduire par son esprit. Et pour pouvoir être conduit par son esprit, bien sûr, il faut que notre esprit puisse l'entendre, le connaître, le reconnaître, recevoir les révélations. Ça, nous le verrons un peu plus tard. Pour l'instant, nous sommes à regarder ensemble ce pouvoir de notre chair, de notre vie naturelle, qui nous mène à la mort. Nous avons besoin de haïr la totalité de notre chair. Nous ne devons pas simplement être délivrés des péchés que notre chair produit. Parce que je sais comment résister tant soit peu aux actions de ma chair. Mais je ne sais pas encore que c'est ma chair tout entière qui doit être détruite. Et si je n'ai pas compris qu'elle a été crucifiée avec Christ, je ne peux pas comprendre non plus, saisir non plus, que chaque jour, je dois faire mourir les actions du corps pour que mon esprit vive et puisse être conduit par le Saint-Esprit. Le problème que nous rencontrons tous, vraiment que nous rencontrons tous, personne n'en est exempt, c'est que notre chair peut non seulement produire le péché, ça nous savons le reconnaître, mais qu'elle peut aussi accomplir quelques biens en apparence. Alors, si elle continue à bien faire, c'est clair qu'elle est encore vivante, elle n'est pas morte. Si elle était vraiment morte, ma chair, ma capacité de faire le bien comme le mal aurait péri avec elle. Pas seulement ma capacité à faire le mal, mais à faire le bien aussi. Vous comprenez, c'est une question de source de vie. Si ma source de vie est ma chair, je vais à la mort. Ce sont des œuvres mortes. J'irai dire que l'aptitude à bien faire prouve que notre chair n'est pas encore morte, que nous ne vivons pas cette mort avec Christ quand il a été crucifié et que nous ne mettons pas à jour, chaque jour, à mort, les actions de notre chair. Naturellement, n'oubliez pas, les hommes appartiennent à la chair. Et la Bible nous enseigne très positivement qu'il n'y a personne au monde qui ne soit de la chair, car tous les pécheurs sont nés de la chair. Nous sommes tous nés chair. Donc nous avons besoin de naître de nouveau, de naître d'en haut de la vie de l'esprit pour pouvoir vivre la vie de l'esprit. Mais nous devons aussi reconnaître que de nombreuses personnes, avant de naître de nouveau, et beaucoup même de celles qui passent toute leur vie sans croire en Jésus-Christ, ont accompli et continuent à accomplir de nombreuses œuvres recommandables. Vous êtes d'accord avec moi? Et il y a certaines personnes, on a l'impression que certaines personnes sont venues au monde avec des qualités, une nature toute pleine d'amabilité, de patience, de bonté. Mais qu'est-ce que Jésus dit à Nicodème? Bien que Nicodème ait été reconnu par le Seigneur comme naturellement bon, il était maître de la loi, il enseignait les choses. Il est néanmoins regardé par Jésus comme étant de la chair. La chair ne peut pas faire le bien. Je crois que c'est véritablement la chose que nous devons garder constamment dans notre, dans notre pensée en cherchant à marcher comme Dieu le désire, c'est que ma chair, celle qui vit en moi, celle dont je suis fait, ne peut pas faire le bien. Il faut que j'aie autre chose. Et cette autre chose, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a été donné par l'œuvre de Jésus-Christ. Alors, Paul parle aux Galates et puis il dit « Mais vous avez commencé par l'Esprit. » Galates au chapitre 3, au verset 3, « Est-ce que maintenant vous voulez finir par la chair ?» Les Galates étaient tombés en fait dans l'erreur d'utiliser la chair pour faire le bien. Alors, c'est pour ça que l'apôtre leur pose cette question. Alors, si la chair des croyants des Galates n'avait pu faire que du mal, la question aurait été sans objet. Mais s'il leur pose la question, c'est qu'ils sont capables de faire du bien. Mais ils dépendaient des capacités qu'avait leur chair de faire ce qui est bien. Donc, les actes de justice de la chair et les œuvres de l'esprit sont deux mondes absolument opposés. Ce que le croyant accomplit par sa chair est accompli par lui-même et ne peut jamais amener à la perfection ce que le Saint-Esprit a commencé. Je vais reprendre ces deux phrases parce que je crois qu'elles sont essentielles. Les actes de justice de ma chair, c'est-à-dire de mon être naturel, et les œuvres de l'Esprit Saint sont deux mondes absolument opposés. Ce que moi, en tant que croyant, j'accomplis par ma chair est accompli par moi-même, selon ma volonté, et ne peut jamais amener à la perfection ce que le Saint-Esprit lui-même a commencé dans ma vie. Donc si j'ai commencé à marcher par l'Esprit, je dois continuer à marcher par l'Esprit. Et Paul va aller plus loin parce qu'il va dire dans Galates 2, chapitre 2, verset 18, « Si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même comme un transgresseur. » Si j'ai commencé à marcher par l'Esprit, parce que j'ai compris que c'était la vie de l'Esprit. Et puis qu'après, je retourne en arrière et je veux utiliser mon être naturel, c'est-à-dire je veux utiliser mon intellect, parce que c'est là où, en général, on retombe le plus facilement dans le raisonnement, dans la réflexion, dans l'intellect. Si je veux utiliser mon intellect pour diriger ma vie et marcher dans les œuvres de Dieu, eh bien, je deviens un transgresseur. Puisque ce que j'avais en fait abandonné au départ de ma vie chrétienne, je suis en train de les remettre en place dans ma vie de tous les jours. Donc c'est par la foi. Nous avons été sauvés, nous avons été appelés dans le Seigneur par la foi en lui. Nous avons été sauvés par le Seigneur par grâce. C'est une faveur imméritée. La grâce est une bénédiction, une faveur imméritée de Dieu. Nous avons été sauvés par grâce. Ce n'est pas par nos œuvres que nous avons. Ce n'est pas parce que nous avons bien agi que nous avons été sauvés. Nous sommes sauvés, c'est un cadeau de Dieu. Sa grâce de Dieu nous a pardonnés. Et mes œuvres, toutes ces choses que j'ai essayé d'accomplir pour m'approcher de Dieu, eh bien, c'est ces choses-là, je les ai détruites. Le jour où je suis venue au Seigneur, le jour où j'ai reçu sa grâce, j'ai compris sa faveur, j'ai reçu cette bénédiction d'être réconciliée avec lui par Jésus-Christ, j'ai compris que je ne pouvais plus rien faire par moi-même pour m'approcher de Dieu, mais que lui s'était approché de moi et je n'avais qu'à accepter. Donc là, je suis rentrée dans la foi. Dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Alors je dois continuer dans cette même foi. Si je retourne en arrière et que je vais essayer de faire des œuvres pensant que ce sont les œuvres de Dieu, mais je me trompe complètement. C'est-à-dire que je rebâtis ce que j'avais détruit. je remets en place un système de fonctionnement qui n'est pas bon. Je remets en place un système de vie, de fonctionnement qui est basé sur ma chair et non plus sur l'esprit. J'espère que cela vous sera révélé par le Saint-Esprit, parce que moi je peux vous partager ce que j'ai compris, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse le révéler à votre cœur, à votre intelligence, à votre âme, après l'avoir révélé à votre esprit. Vous savez que le cœur, c'est l'interface entre l'esprit et l'âme. Le cœur, c'est pas, je le dis souvent et je le répète parce qu'il y a une mauvaise traduction en français, puis en France, nous sommes le peuple de l'amour, hein, on dit facilement cette chose-là. Le cœur n'est jamais le petit cœur rouge qui bat et « I love you ». Non, dans la Bible, le cœur, c'est le centre de mon être. Et le centre de mon être est en une interface entre mon esprit, qui est la partie incréée, qui a été soufflée en moi par Dieu, et mon âme, qui est le résultat de ce souffle de Dieu dans ce corps de chair, et l'homme devint une âme vivante. Donc mon cœur, c'est cette interface entre l'esprit et l'âme. Donc l'esprit qui va recevoir la révélation de Dieu va, par le biais du cœur, le transmettre à l'âme qui va être capable de la réfléchir, de la raisonner et d'en parler, l'intelligence venant au secours pour pouvoir mettre en mots ce que l'esprit vient de révéler. Donc l'esprit a besoin de vous révéler ces choses-là. Et tout ce que je partage avec vous n'a d'intérêt que si l'Esprit, vous laissez le Saint-Esprit vous révéler ce que je partage avec vous.